Du point de vue de la mentalité hébraïque de ce terme, je ne peux dire que quelque chose est vrai que quand c'est arrivé. Védarashta, il y a un verset. Védarashta, im emet hadavar. Et tu chercheras si la chose est arrivée, on traduit si la chose est vraie. Si la chose est vraie, ça veut dire si c'est arrivé. Par exemple, quelqu'un dénonce quelqu'un d'autre au tribunal. Le tribunal doit rechercher si c'est arrivé ce que l'autre a dit. Okay? C'est ça que ça veut dire si c'est vrai, si c'est arrivé. Vous comprenez ? Bon, par conséquent, tant que la promesse n'est pas encore accomplie, la relation de certitude s'appelle foi, emuna. Quand elle est accomplie, elle s'appelle emet, vérité. C'est clair ? Il ne s'agit pas, une minute, rien. Il ne s'agit pas des preuves de la foi, il faut que j'ai des preuves, il faut qu'elles soient belles pour que je l'aime. Okay? Vous voyez, c'est clair ? Le Rav Kook, par rapport au problème de Eretz Israël, avait l'habitude de. Chaque fois qu'il recevait des gens de l'étranger, de leur poser la question d'où vous êtes ? D'où vous êtes ? Alors, il répondait, par exemple, de France. Bon, et avant ? Ben de France, non, mais avant ? Ah, d'Espagne. Et avant ? Eh bien, avant, d'Espagne. Non, avant. Ah, avant. Je sais pas. Comment tu sais pas ? Réfléchis. Ah oui, de Palestine. Vous êtes d'ici. Ne racontez pas que vous êtes d'Espagne. Vous aurez dit. Oui, mais c'est tellement difficile ce pays, c'est un problème. Alors il racontait une histoire. Il dit voilà, un jour, vous suivez. Alors, un jour, il y a un jeune homme qui a voulu demander une jeune fille en mariage. Et elle n'en voulait pas. Vous devinez la suite. Alors, le jour de l'entrevue, au lieu de s'embellir, elle s'est enlaidie. Alors le jeune homme a dit à l'entremetteur, le châtrain, il dit, celle-là, j'en veux pas, elle est moche. mais moralité, c'est elle qui voulait pas de lui. Est-ce que c'est clair ? Alors méfiez-vous, il faut s'entêter, la fiancée est belle, quelles que soient les apparences. Bien, vous avez compris ce jeu. Alors je reviens au problème. De toute façon, il n'y en a pas d'autre. Alors, voilà donc la relation entre les deux substantifs. Okay? Emouna et Emet. Vous allez prendre une règle que vous retrouverez dans liturgie du Sashma. La nuit est le temps de Emouna. Le jour est le temps de Emet. C'est clair ? Je vous dis un verset des psaumes que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est dans le psaume du Shabbat. Lehagid baboker hasdecha. La suite. Il a fait Vemunatra Balelot. Oui. Les Hagid Baboke Hasdecha, pour dire ta fidélité au matin, je suis sorti de la nuit. Et Emunatra, la confiance que je mets en toi dans la nuit. Okay? Je rentre dans la nuit avec confiance. Je sors de la nuit avec vérité. Okay? Attends une minute, je termine ça. Une minute, je vais terminer ça. Alors vous verrez que la bracha de la Geoula, le matin, commence par les deux mots Emet Veyatziv, c'est vrai et c'est vraiment vrai, alors que le soir, Emet Veemouna, c'est vrai et un acte de foi, parce que je rentre dans la vie. C'est bien, vous verrez différemment. Répétez quoi, j'ai tellement dit de choses aujourd'hui. Oui, la bracha de la Geoula, c'est-à-dire la bracha qui vient juste après le Kriyat Shema, le matin. Vous allez rechercher dans votre livre, le matin, ça commence par deux mots. Emet ve yatsiv. C'est vrai et c'est yatsiv. Yatsiv, ça veut dire sûr, fondé, irréversible, absolu. Yatsiv. Vous avez le livre sous les yeux ? Regardez. Ça va ?
Donc Emet n'arrive pas
à capter
la
le Emet total, oui. En attendant, il y a Emouna. Mais la relation à la promesse, la relation de confiance et d'autant de certitude que la relation d'expérience. Okay. Et je vais un peu continuer cela avant ta question. Suivez bien, je reviens à ce que je disais. Vous prenez la bracha de la Geoula de la prière du matin, elle commence par les mots, vous allez lire, Emet ויציב, ונכון, וקיים, וישר, ונאמר, יעשה 15 adjectives, כן? Ça veut dire, c'est vrai, et c'est vrai que c'est vrai, okay, le matin. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on en est sorti le matin. Le matin, la sortie d'Égypte était accomplie. Alors on peut dire, c'est vrai que c'est vrai. Okay. C'est un peu à ça que tu pensais. Un petit peu. Okay. Bon, c'est le modèle. Tandis que le soir, on va rentrer dans le moment où ça doit arriver, mais peut-être ça ne va pas arriver. Peut-être je ne vais pas mériter. La sortie d'Égypte a eu lieu à minuit. Alors le soir, j'entre dans cette nuit-là avec confiance, mais j'en sors avec certitude. C'est clair ? Alors, c'est la raison pour laquelle, le soir, la bracha de la Geoula, vous vérifierez vous-même dans l'office du soir, commence par Emet ve Emouna. Ça va ? C'est clair ? D'ailleurs, les médecins savent que la plupart des maladies se déclenchent la nuit. Il y a quelque chose qui se passe la nuit. Bon. Alors, je reviens à notre problème. Qu'est-ce que je vous ai annoncé, que je vous expliquerai immédiatement? Il ne faut jamais oublier quand je vous dis, j'en parlerai. J'arrête, vous les filles, là, il y a longtemps. Voilà, Descartes cherche une méthode pour sortir du doute dans les sciences. Alors il a cette formule qui consiste à dire, à peu près, cela, je ne me rappelle pas des termes exacts, mais vous le retrouvez, c'est dans la première méditation des méditations métaphysiques de Descartes. Il dit ceci, et... On ne peut rendre totalement sa créance à qui nous a trompé une fois. Créance, voulant dire croyance, c'est-à-dire confiance. Okay. Par conséquent, toute la science qu'il avait, étant donné qu'il s'est aperçu que telle ou telle donnée était fausse, il la met en bloc, en doute, puisqu'elle l'a trompé au moins une fois. Descartes est connu comme le grand philosophe du doute, c'est un dogmatique de la vérité, mais à condition que la vérité sorte du doute elle-même. Tant que la vérité n'est pas épurée par le doute, elle n'est pas sûre. Je suis au niveau de la philosophie des sciences. Et d'ailleurs, on sait d'une façon générale qu'il était, il avait une obsession personnelle d'être trompé. Il ne s'est jamais mal. C'est connu dans l'histoire. Bon, c'est le grand philosophe du doute systématique. Mais pour aboutir à la vérité, pas pour rester dans le doute. Un jour, je reprendrai son analyse, ce n'est pas le moment aujourd'hui, et lorsqu'on étudiera le problème de l'erreur, d'ailleurs. Et alors, ça c'était vraiment secondaire, mais dans le courant de l'analyse, il me semblait que je devais vous parler de quelque chose d'autre. Alors revenons en tout cas au fait de la liaison de ces deux rites. Et je suis encore dans le cours de la semaine dernière, hein. La liaison de ces deux rites, au moment de la destruction du temple, on a eu un problème à résoudre, qui était un problème nouveau et difficile. Comment indiquer la kavana de la prière, l'intention de la prière, devant qui je suis? Attends, avant d'aller plus loin, tu avais une question tout à l'heure.
La nuit était dans la foi, le jour et le jour de la nuit.
Oui.
La nuit, on est parlé du temps.
Oui.
Et en particulier du schéma.
Oui.
Et bon, c'était pas la discussion à propos du schéma, est-ce que
oui.
Ça se
dit. Et alors
et puis avant le soir, comment exactement?
Oui. Quelle est ta question?
Ma question.
Étant donné ces préliminaires, hein? De quoi?
Par rapport au temps où
ah,
on
tu veux le relier les deux enseignements? Alors, je vous rappelle, le temps où on lit le schéma, le temps par excellence, et puis la halakha, la règle, va élargir ce temps-là, mais c'est le moment du passage entre le jour et la nuit. Et du passage entre la nuit et le jour. Vous vous rappelez de cela, okay? On va nous donner un délai. Mais avant le temps, ce n'est pas le temps. Et après le temps, ce n'est pas le temps. Parce que le temps est le temps du passage. C'est clair? Et bien, vous avez là un exemple de deux mondes radicalement différents. Le monde où la promesse est déjà accomplie, que la lumière soit et la lumière fut, il fait jour, c'est accompli. Okay? Et le temps où la promesse est promesse, la lumière. Que la lumière soit et la lumière n'est pas encore. C'est le passage d'un monde à un autre radicalement différent du point de vue des promesses du Créateur. Prenez ça comme exemple de toute la vie vécue ainsi. C'est clair ce que je dis? Donc tu peux relier ainsi tes deux enseignements. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, en étudiant le mot de Amen, c'est le mérite de la foi est un problème pour lui-même. Est-ce qu'il y a un mérite à faire foi, puisque c'est Dieu qui promet? Ben justement, le mérite vient de ce que bien que ce soit Dieu qui promet, ça ne s'accomplit pas. Alors il faut une adhésion de foi énorme, beaucoup plus que si c'était n'importe qui avait promis, puisque ça ne s'accomplit pas encore. Est-ce que c'est clair? Alors c'est là que je reviens à ce que tu avais dit tout à l'heure, et qui maintenant est à sa place et est vrai. En fin de compte, le fait d'avoir confiance que la promesse s'accomplira pour moi implique que j'ai d'abord confiance en moi. Tu te rappelles de ça? Mais ça vient maintenant à la fin. Okay? C'est bien clair. Parce que, qu'est-ce qui fait que je doute que Dieu accomplisse sa promesse, j'ajoute, pour moi? Pas du tout qu'il puisse l'accomplir ou pas. C'est que ça me concerne. Et c'est pourquoi la foi est faite à la fois d'une certitude absolue par rapport à Dieu et d'une incertitude absolue par rapport à moi. C'est clair? Ça veut dire, c'est sûr que le Messie viendra, puisqu'il l'a dit. Mais est-ce qu'il viendra pour moi? Ça dépend de moi. Vous voyez, c'est clair? J'ai compris le problème. Dire, je vous reprends notre analyse habituelle. Pour le clan, la promesse était conditionnelle. Pour l'individu, ça dépend du mérite. Vous avez compris cela? Vous avez compris? Bon. C'est pourquoi la relation de foi à une promesse est simultanément certitude absolue et incertitude absolue.
Conditionnelle, ça ne veut pas plutôt vouloir dire qu'il y a des conditions?
Conditionnelle pour qui? Pour?
Bah pour le clan.
Non, pour le clan, c'est inconditionnel.
Vous avez dit conditionnel.
Non, j'ai dit inconditionnel. Qu'est-ce que tu as entendu, toi? Inconditionnel ou conditionnel? Non, c'est à lui que je devrais demander. Non, c'était inconditionnel. Que je voulais dire, bon, mais tu as compris. Okay. Et pourquoi les autres n'ont pas réagi? Pourquoi vous me faites confiance inconditionnellement? Pourquoi? C'est interdit. Qu'est-ce qu'avait dit Descartes? Je pense, donc je suis. Pas il pense, donc je suis. Alors, je reviens au problème. Oui, vous rattachez cela donc au problème du klal et du prat. Pour le klal, c'est inconditionnel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des raisons, mais les raisons sont avant. Il s'est passé du temps depuis Adam Arishon jusqu'à Abraham, Isaac et Jacob pour que l'alliance soit conclue. Il y a donc des raisons. Mais dès que le fait d'alliance est là, promesse, fiançailles, c'est inconditionnel. C'est clair? Dans le prophète, tu n'as pas compris? Je vais expliquer. Quelle heure il est? Alors on a le temps. Et on n'a pas commencé le cours de la prochaine fois, mais t'avais rien dit, on n'a pas perdu de temps. Je vais expliquer. Pensez à autre chose. À quel moment tu m'as dit que tu n'as pas compris?
Moi, j'ai pas compris le passage du clan.
Ah oui, voilà, mais je vais l'éclairer. Ça veut dire que la promesse, en tant qu'elle concerne le clan, tout Israël, Israël en général, elle est inconditionnelle à partir des raisons qu'il y a eu que cette promesse a eu lieu. C'est clair? Bon. Ça, c'est le cours du dimanche et lundi. Bon. Maintenant, l'individu, lui, est le sujet de cette promesse dans la mesure où il est authentiquement de ce clan. Or, il y a toujours une distance entre le profil d'un individu et le profil de son clan. Par conséquent, il faut que l'individu soit authentiquement l'individu du clan pour que la promesse faite au clan concerne l'individu. L'individu saisit le prat. Vous suivez le raisonnement? C'est pas difficile. On retrouvera ça quand on étudiera l'histoire de Jacob. Jacob naît Jacob. Il naît comme Jacob. Et Dieu s'adresse à Jacob pour lui promettre les promesses d'Israël. Il y a une seule clause, c'est que Jacob devienne Israël. Dès que Jacob devient Israël, les promesses s'accomplissent automatiquement. C'est clair? Alors, vous voyez pourquoi la promesse est inconditionnelle pour le clan, et l'individu doit mériter, non pas la promesse, parce que Dieu a promis, il a promis, doit mériter d'être de ce clan. Et dès qu'il est de ce clan, ça s'accomplit pour lui. C'est clair? Une minute, je vais terminer et monter vos questions. Sinon... Mais on étudiera ça plus au fond avec Jacob, parce que c'est Jacob qui reçoit le nom d'Israël. Toutes les promesses qui ont été faites au patriarche concernent un certain Israël. Okay? On va apprendre que seul Jacob est devenu Israël. À partir de Jacob, il y a une adresse. C'est Jacob qui est Israël. Mais Jacob est né Jacob. Il faut qu'il devienne Israël pour que les promesses s'accomplissent. D'où le récit de la lutte avec l'ange. Enfin, de la lutte contre l'ange. À ce moment-là, peut-être on posera la question de toi. Qu'est-ce que c'est un ange? Jusqu'à présent, c'est en deux mots. L'être ange. C'est très étrange. Je reviens à notre question. qu'est-ce que ça veut dire que Jacob se dispute avec un ange? Et vous voyez que la Bible parle au niveau de la prophétie. Okay. Alors, il y a la différence entre le klal et le prat. C'est clair? La promesse, lorsqu'elle concerne le klal, est inconditionnelle. Le prat, il y a la clause du mérite de l'individu. Quel mérite? D'être vraiment de ce klal. Ça va? Je reviens à notre sujet. C'est pourquoi la prière est plus forte en communauté que individuellement. Est-ce que c'est clair? Vous relisez ça, ça en même temps. Ça va jusque-là? Bon. Eh bien, quand vous commencerez à étudier les mitzvot dans le texte, les commandements de la Torah en tant que commandement, vous verrez que l'impératif qu'on attend est en réalité formulé dans un futur. Hmm? Donnez-moi un exemple, une mitzvah, des 10 commandements par exemple. Ici, le futur n'est pas tellement évident parce que c'est un infinitif qui sert de futur. Mais donnez-moi un exemple avec un futur. Non, en hébreu, bien sûr. Pas plus fort. Non. Oui, par exemple. Bon, c'est pas dans les 10 commandements. Hein. C'est Lévitique, chapitre 19, verset 27. Alors là, je viens de lire ça il n'y a pas longtemps. Rassure-toi. Alors, c'est peut-être pas le chapitre. Bref. Alors là, prenez vers Ater Hakamor. L'intention, c'est un impératif. Aime ton prochain comme toi-même. Mais qu'est-ce qu'il y a écrit en hébreu?
Tu
aimeras. Futur. Alors, le niveau futur, c'est une promesse. Ça veut dire, je paraphrase, mais c'est très simple. Si tu es Israël, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je te promets. Inéluctable. Si tu es Israël. Alors, pour la collectivité d'Israël, la Torah, c'est tout un ensemble de promesses. Vous serez saints. Mais l'individu entend ça comme un impératif. Aime ton prochain comme toi-même, afin que cette promesse de Dieu aimera s'accomplisse. C'est clair? Vous avez mieux compris cela? Vous tenez bien? La Torah se formule dans ses commandements au futur. Et l'individu l'entend à l'impératif. C'est clair? Alors les grammairiens disent que l'hébreu de la Bible a l'habitude d'employer le futur pour dire l'impératif. Mais c'est de là qu'ils l'ont appris. C'est clair? Par exemple, un des commandements étonnants dans la Bible, c'est « Lo tirtzach, tu ne tueras pas ». À qui les 10 commandements s'adressent? Au peuple d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors, un commandement de ce genre, c'est étonnant. Parce que tu ne tueras pas, on dit ça un juif. Et alors, ça signifie deux choses. Premièrement, que le sens du commandement est au niveau où chacun se tient. Au niveau le plus grossier, ça veut dire tuer, je ne sais pas moi, comment on dit ça, duel, une balle de revolver, non. Mais un niveau du tzaddik très élevé, l'autre tsar, ça veut dire, attention, même pas avec un regard. Vous savez ce qu'on appelle une œillade d'assassine. On peut tuer quelqu'un, ou avec un mot. C'est clair, ça c'est la première chose. Deuxièmement, c'est dit au futur. Et ça veut dire, si tu es Israël, je suis celui qui, ton Dieu. Si tu es cet Israël-là, je te promets, en fin de compte, tu ne tueras pas. Mais l'individu l'entend comme un impératif à accomplir. Ne tue pas. Vous y êtes? De toute façon, il n'y en a que 9. Bon, enfin, oui, pour l'individu, on peut le retenir. C'est des commandements pour l'individu. Commandement, c'est impératif. Okay? L'impératif. Mais l'objet de la Torah se révélant à Israël, c'est une promesse. Tu seras comme ça. Je te promets. Entendez dans le « tu seras comme ça » les deux dimensions. Tu seras comme ça, sinon gare à toi. Ça, c'est l'impératif. Mais tu seras comme ça, je te promets, ça, c'est la promesse. Alors, la promesse s'adresse au klal. L'impératif est entendu par le prat. Ça va? C'est clair?
Comment ça s'appelle Sarah Dibroët?
Parce que tu vois, la traduction littérale, c'est les 10 paroles, c'est pas les 10 commandements. Okay? Bon, mais là, le mot de Dibra a fini par prendre à la longue aussi le mot de commandement, principe de tout commandement. Quand vous serez plus avancé, combien y a de commandements dans la Torah? Combien y a de commandements en tout dans la Torah? 613, très bien. Un jour, si vous avez le temps, comptez le nombre de lettres qu'il y a dans les 10 commandements. Et ne me dites pas qu'il y en a 613, vous ne les avez pas comptés. Alors comptez-les, je vous dirai pas ce qu'il y a. Ça veut dire par l'être. Alors ça veut dire que l'idée que les 10 commandements, c'est le principe de toute la loi. Bon, je referme la parenthèse. Et que disais-je ? On parlait du lien des deux rites. Hein ? On revient au cours. Ça va jusque-là ? Alors je vous rappelle au moins l'essentiel. C'est que dans le cas du matin, il y a une bracha après le Kriyat Shema. Cette bracha s'appelle la Geoula. Et dès qu'on a prononcé la Hatima, la formule de la Geoula, on commence la Tfila. C'est bien clair ? À quoi ça correspond ? D'abord, à une situation historique très importante. Tant que le temple existait, la Kavana, l'intention de la prière, devant qui je me trouve, était illustrée par le culte rendu dans le temple. En paraphrasant, je me trouve devant celui à qui le grand prêtre de ce temple rend le culte qu'il rend. C'est clair ? Et chacun à son niveau a une relation de foi à travers le klal jusque la kavana du grand prêtre devant son Dieu, c'est lui qui sait ça. Super ? J'ai compris le problème. Vous voyez le sens du mot « Amen ». J'adhère à. Vous voyez ?
Il a une importance, c'est le plus important. Là.
Colossal. Le grand prêtre ?
Non. Hein ? Le mot « Amen ».
Ah oui, c'est le mot clé de la foi.
Donc si on ne le dit pas, ça ne sert à rien.
Je comprends pas ce que tu veux dire.
Si on entend...
Oui. Le Talmud dit, celui qui dit la bracha, celui qui dit Amen à une bracha est plus grand que celui qui a dit la bracha. Celui qui a dit la bracha, il comprend ce qu'il dit. Alors si déjà il comprend, il a moins de mérite. Mais celui qui dit Amen a un mérite colossal. Vous y êtes ? Encore plus. C'est plus difficile. Avec la connaissance, avoir la foi comme si on n'avait pas la connaissance, c'est pas facile. Mais c'est le plus grand mérite. Parce que vous imaginez bien que, avec une tradition comme celle de la Bible, c'est le Créateur qui s'adresse à ses créatures. S'il fallait exiger des créatures qui soient des spécialistes en théologie et qu'ils aient fait Mariano ou autre chose, c'est faussé à la montre. Ça veut dire qu'il faut que cela soit universel a priori, que quelque existant que ce soit, il soit concerné. C'est clair ? Alors, en fin de compte, la règle, c'est Amen. Vous comprenez ? Mais alors, il faut une kavana, une intention de ferveur d'une pureté absolue. Alors, la connaissance, ça aide, mais ça gêne aussi. Pourquoi ? Parce que si j'ai des connaissances, j'ai des raisons d'avoir foi. La foi est vulnérable, c'est clair ? J'ai tendance à faire dépendre ma foi de mes connaissances. Bon,
Elle peut être renforcée,
mais elle peut être au contraire mise en question. Parce qu'à un certain moment de ma vie, j'ai cru avoir une évidence, okay, sur laquelle j'ai basé ma foi. Et puis j'ai grandi, et cette évidence m'apparaît infantile, et la foi s'écroule. Au fond, c'était le sujet qui est arrivé aujourd'hui, c'est le plus important, le Mishnah de Birka Avot que je vous ai cité. Un amour qui dépend de quelque chose est vulnérable, c'est clair ? Et ajustez bien à ça. Ça va même beaucoup plus loin pour vous donner l'exemple. Il y a plus de mérite à aimer une femme qui soit pas belle qu'à aimer une femme qui soit belle. Ça va jusque là. C'est pour ça qu'il faut séparer les deux choses. Il faut dire des actions de grâce pour la beauté, une chance extraordinaire, mais séparer ça de l'amour elle-même, de la beauté ou des autres qualités d'ailleurs. Quand on se rencontre de moi à toi, et tout ce qu'il y a avec, c'est superfétatoire. Okay, c'est clair ? Bon, on va s'arrêter là aujourd'hui, parce que sinon je vais vous parler de ce qui se passe après les fiançailles, et ça va nous prendre être propre. J'ai quelque chose à vous dire concernant votre programme. Bon, je me suis rendu compte cette semaine que vous êtes fatigué, surmené, je sais pas comment dire. Bon, il y a une raison climatique. L'hiver a commencé, et puis le printemps est revenu. Pas le printemps, mais presque l'automne. Et ça fatigue énormément. Surtout vous qui venez d'un autre continent, vous n'êtes pas habitué à ces rythmes-là. Bon, alors vous allez terminer la semaine avec le programme habituel. Oui. En particulier la Kitabet, puisque Finon n'est pas là. Demain matin, à la place de l'exercice des bleus, vous avez Parashat HaShavuot avec moi, bien que vous avez eu aujourd'hui avec Akiva. Okay, c'est clair. Et vous avez le premier cours de vendredi, et vous partez après le premier cours de vendredi, c'est-à-dire de 9h à 10h30. C'est clair. Bon. Alors, ce que j'ai décidé, c'est que les 3 jours qui suivent, dimanche, lundi et mardi, y compris, vous aurez un programme facultatif. Facultatif, ça veut dire celui qui peut venir vient, celui qui ne peut pas venir ne vient pas. C'est une sorte de vous laisser 3 jours pour vous reprendre au niveau santé, repos, etc. Et les professeurs viendront. parce que c'est leur devoir. Et ils feront cours avec ceux qui seront là, en révision et exercice. Et les autres, reposez-vous. Jusqu'à mercredi matin, 8h, le programme recommence. J'aurai 4 jours pour réfléchir à l'aménagement de programme, pour que vous soyez moins fatigués. Ça va jusque-là ? Top. Alors, vous allez voir avec Kitty, parce qu'il y a deux problèmes qui se posent. En particulier pour Ruti. Ruti, la professeure de la Kitabé, qui est très occupée. S'il n'y a personne qui vient pour son cours, ce n'est pas la peine qu'elle se dérange. Okay ? Alors, essayez de réfléchir d'ici jeudi, d'ici demain, à l'avance. Ceux qui pensent être là, tel cours du dimanche, tel cours du lundi, tel cours du mardi, okay, indiquez-le à Kitty. Ceux qui viennent au cours, c'est à l'heure. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est en facultatif, c'est pas à l'heure pour ceux qui viennent. C'est clair ? Et le problème des repas. Ce n'est pas la peine qu'on fasse venir des repas qui ne seront pas mangés. Ça ne sert à rien. On est obligé de les jeter. C'est interdit. C'est clair ? Alors, si vous pensez que tel jour, vous n'êtes pas là, indiquez-le suffisamment à l'avance, au moins 2 jours à l'avance. Bon, vous pouvez faire votre programme comme vous voudrez. Mais si, par exemple, lundi à midi, vous n'êtes pas là, vous signez à la Kitty, lundi à midi, un repas en moins. C'est clair ? Ça coûte cher. Ça va jusque-là ? Bon. D'autre part, si vous voyagez, c'est-à-dire si vous allez en dehors de Jérusalem, ou même si vous êtes en Jérusalem mais pas à l'école, vous laissez à Kitty l'adresse et le numéro de téléphone. Qu'on puisse vous trouver dans les 5 minutes qui suivent. Ça va jusque-là ? Vous avez tout entendu, tout intégré ? Bon.
On en a parlé avec Kitty, mais c'est le problème de l'hébreu, le point loupable. Entre la Kita et FB.
Ah oui, j'ai oublié de vous dire ça, oui. Je m'en occupe. Bon, enfin, comme Philo n'est pas là, ça retarde un peu les choses, mais enfin, je m'en occupe et je vais essayer d'aménager cela de telle sorte que vous ayez 3 kitos, réaménager complètement. Mais il est évident qu'il faut trouver une solution à ce problème.
Bon, quitte à bête, j'arrive à rien.
Je sais. Il y a une partie de Aleph qui est Aleph plus, il y a une partie de bête qui est bête minus. Je sais. C'est pas des minus, mais c'est de bête qui est minus. Alors, ça dépend pas de nous, ça dépend de la marchaka. Vous n'êtes que 30. Si vous étiez 50, il n'y aurait pas de problème. J'en sais rien avec les. Finalement, ça dépend du ministre de l'Éducation. J'ai eu passer un coup de fil, je lui dis. Bon, alors voilà l'essentiel de ce que je voulais dire. Alors, vous continuez à travailler tranquillement jusqu'à vendredi matin, 10h30, c'est clair ? Et après, vous prenez votre Shabbat, dimanche, lundi, mardi, de repos. Ceux qui veulent venir à des exercices, dans les cours correspondants, les professeurs sont là. Ça va ? Mais indiquez déjà quand même à tout le monde. Merci.